voilà mes bras pour t'enlacer, voilà mes mains pour te caresser. Mais tu n'es pas là, mais tu n'es pas là. Oh mon amour, tant désiré, voici mes lèvres pour t'embrasser, voici ma fièvre pour t'embraser. Mais tu n'es pas là, mais tu n'es pas là. Oh mon amour, voici mes lèvres pour t'embrasser, voici ma fièvre pour t'embraser. Mais tu n'es pas là, mais tu n'es pas là. Oh mon amour,
du bassin, miroir immobile, dis-moi ma beauté. Bilitis, ou qui que tu sois, Tétis peut-être, ou Amphitrite, tu es belle, sache-le. Ton visage se penche sous ta chevelure épaisse, gonflée de fleurs et de parfums. Tes paupières molles s'ouvrent à peine et tes flancs sont là des mouvements de l'amour. Ton corps fatigué du poids de tes seins porte les marques fines de l'ongle et les taches bleues du baiser. Tes bras sont rougis par l'étreinte. Chaque ligne de ta peau fut aimée. Au clair du bassin, ta fraîcheur repose. Reçois-moi qui suis lasse en effet. Emporte le fard de mes joues et la sueur de mon ventre et le souvenir de la nuit.
C'était successivement Dany d'Auberçon qui nous chantait la chanson aphrodisiaque. Et puis un extrait des chansons de Bilitis de Claude Debussy sur un texte de Pierre Louis. L'eau claire du bassin. Mais en gros, c'était deux chansons d'asperges, oui, car vous venez d'entendre deux asperges chanter puis réciter, parce que, effectivement, pour cette 286e édition des Petits Tas dans le Mou, sur Radio Canu, la plus... une belle des radios, nous sommes, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, la Sainte Asperge. Et oui, c'est un peu tôt dans la saison, vous me direz, mais enfin, c'est la Sainte Asperge, patronne des aphrodisiaques. proie. Asperge est-elle la patronne des aphrodisiaques? Mais ça date de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien disait que les asperges, c'était des cornes de bélier enfoncées dans le sol. Et oui, donc, les cornes de bélier, nécessairement, chers auditeurs, chères auditrices, c'est aphrodisiaque. C'est aussi le premier légume qui apparaît au printemps et on l'associe à la fraise. Fraise qu'on appelle, dans les campagnes, les mamelles de nourrice. Donc tout s'accorde. Les mamelles de nourrice, c'était même dans le dictionnaire d'Antoine Furtière de 1702 pour la fraise. Dans la littérature, on trouve, dans Les Misérables, Thénardier qui, à un moment donné, gueule contre les riches et dit les riches, voilà ce qu'il est défini, ils mangent des asperges en janvier. Bon appétit. Il est aussi un fait constaté, c'est que l'asperge, si vous ne la récoltez pas, ne pourrit pas et devient un arbre. C'est un des seuls légumes qui ne pourrit pas sur place, s'il n'est pas cueilli. Et... autrement, on trouve cette expression chez nos filles prostituées, là même à Lyon, et ben, je vais aller aux asperges. Et aller aux asperges, et ben, c'est commencer le turbin. Voilà. Vous verrez aussi que notre cher Proust a fait un éloge à la préparation de l'asperge. Et voilà, et nous aurons une petite rubrique au milieu d'émission, la rubrique JPG, qui vous lira l'extrait en question de Proust. Ouais. En attendant, je vais essayer pendant une heure d'activer vos hormones, comme si j'étais là, à l'antenne, une asperge parlante. C'est parti. Rubrique Alpha. Scrupule viril de Benoiton, le chaudronnier anarchiste. Depuis le début de cette série Rubrique Alpha, je vous ai exposé le statut des femmes, je vous ai mis face au miroir de l'histoire. Ce miroir avec des taches de rouille qui sont celles des filles dites soumises. J'ai abordé les pilotes en haut fond et comment faire passer un message libertaire sans qu'il soit intercepté par les services spéciaux de la préfecture. En cette fin du XIXe siècle, les filles, arpentant les trottoirs de Nantes, étaient familiarisées avec les théories prônant l'anarchie. La clientèle qui débitait les arguments en faveur de cette doctrine payait peu. Et puis, l'argent était reversé à Mario, qui répartissait les bénéfices, ne s'octroyant au passage qu'une somme forfaitaire, réduite, on ne peut pas le nier, parce qu'elle ne servait qu'à payer l'imprimeur. Reprenons le fil de cette histoire lointaine. Hier soir, Benoiton, le jeune chaudronnier venu à l'anarchie suite aux grèves de 1893, s'est rendu sur les quais de sa ville de Nantes. La Loire, comme à son habitude, drainait sa boue sous la coque des derniers quatre mâts. Ces fiers aristocrates se berçaient pour oublier la boue qui, par en dessous, se roulait en charriant des centaines de milliers de tonnes. Benoiton s'est arrêté pour observer les allées et venues des débardeurs, l'agitation de la ville en son centre névralgique, la limite extrême de la rue et de ses lois, la terre étrangère portée jusqu'à l'intérieur des gouttes un peu salées remontant le fleuve à marée montante. Ce soir, ce sera Angèle. Mario sait pertinemment que Brabance a la préférence de Benoiton. Benoiton, le chétif, le rondelet à la poitrine un peu surélevée, les doigts courts, gourds, les ongles coupés jusqu'au poignet. Lui, avec son penchant pour les rondeurs maternelles qu'il cherche en lui, sur son corps, les seins dont il est presque muni parce que sa poitrine est drôlement surélevée, un peu comme chez certains nains. Rondeur maternelle, rondeur de Brabance, la chair lisse de ses bras, sur lesquels Benoiton laisse glisser ses narines pour s'imprégner du goût du sel. Et il finit toujours par embrasser et mordre le grain de beauté sous l'aisselle. l'odeur aussi sous les selles, les cuisses en remontant. Un point de beauté encore sur la fesse droite, la gauche, non, c'est la droite. Réembrasser, remordre, la tourner. Oh merde, il ne va pas se mettre à bander sur les quais, ça va pas, garçon. Son désir passe. Les caisses derrière lui passent sur la charrette, qui ne s'ouvriront que chez l'armateur, close depuis la Hollande. C'est plutôt pour ce cheval qu'il se prend, Benoît-on, distrayant ses esprits sur l'incroyable membre de l'esclave à crinière, le mort aux dents. C'est le code. Il le sait bien. Parfaitement. Quand Mario va contre le goût naturel des compagnons, en leur assignant telle ou telle rivière, comme il aime appeler les filles, rivière, comme si ça coulait toujours de source. Quand Mario va comme ça contre le goût naturel, Benoît-on n'a rien contre Angèle. La question n'est pas du tout là, ça marchera quand même. Mais là, on n'y peut rien, il a envie d'un coup de Brabance. Et quand il sait que c'est le père Pénard qui va sauter dans la rivière Brabance, ça le rassure un peu, parce que le père Pénard, évidemment, il a plus autant de jus comme de juste. Et justement, quand Mario va contre le goût naturel, c'est pour affaire délicate. Il a de ces mots. Il dit, Mario, comme quand on prend la Loire à contre-courant à marée descendante. Tout de même, après la perquisition, on n'est pas des chiens. Benoît-on rêve d'un voyage placentaire, loin de sa chaudronnerie, de ce faux luxe des cuivres qui n'en contribue pas moins à teinter de rouge les reflets quotidiens. Mission délicate. C'est quoi exactement? On va pas se la faire, entre nous. Il en causera, la prochaine fois, au café Vuillaume ou au café Abono, où que c'est que les anarchistes se rassemblent. Faudrait définir honnêtement et précisément ce qui s'appelle délicat. Angèle doit l'attendre déjà. Message enregistré et cuisses offertes par la même occasion. Offertes, disons, à tarif réduit. Il sait bien, Mario ne tire aucun profit de ce commerce. C'est normal que les filles soient dédommagées, comme dans les autres cas, comme avec les autres. Sans compter les risques, ce pari avec la police. Pourtant, ces considérations le blessent. Payer pour le plaisir, c'est pas ça qui le choque. Ce qui le choque, c'est ce pacte révolutionnaire non gratuit. Il a l'impression de tourner en rond entre la pratique et l'idée. Payer pour faire avancer l'idée anarchique. Voilà, oui, ce qui le choque, le jeune Benoît-on. Et puis, fallait-il impliquer les filles de cette façon? Enfin, quel risque! Quel risque de part et d'autre! C'est bien du Mario, ces machinations. Lui, il voudrait que l'avenir, la femme, la forme... Ici s'arrêtent ses conjectures. L'avenir, la femme, la forme. Quelque chose empêche de penser. S'il essaie de poursuivre, d'aller plus loin, d'analyser pourquoi, qu'est-ce qui coince et où ça coince, parce que ça le gêne, ce trafic d'informations dont les filles sont chargées. Chaque anarchiste tour à tour dans les murs d'une fille encartée, et pas n'importe laquelle de fille, justement une de celles-là. Angèle, Brabance, Uria, ou l'autre. Exceptionnellement l'autre. Tellement exceptionnellement l'autre, qu'il se demande parfois s'il arrivera à bander, si jamais il la croise, quand elle décroise les jambes en signe d'appel, avec ses jambes en ciseaux. Si. Il arriverait à bander.
Plus noir que la série, cafourifi, les nightclubs, les tripots, aux vapeurs vénéneuses, grouille de mal plus beau qu'une paire de leur sourire moulé de vif argent aux lèvres de rubis, au regard de serpent allumant les gogos qui crachent le grisby. La queen de la coco, c'est la môme vert de gris, l'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, attire les ennuis. Fais gaffe aux rives. Mais les femmes s'en balancent quand sortent les pétards. Elles éteignent leur transe. Au lait de nénuphars, les gonzes s'entretuent. Coup de silencieux, elle les poulaga. Ajoutez ces messieurs, quand l'aube grise et mauve frôle les Maccabées, les survivants. Où sont les orchidées, l'empire de la nuit, plus noir que la Syrie, attire les ennuis. Fais gaffe, horrifié. Fais gaffe.
Brigitte Fontaine. Aïe, Fifi. Oui, on est toujours, bien sûr, dans des histoires d'hormones, surtout quand l'empire noir de la nuit, n'est-ce pas? Eh bien, ceci pour nous amener à notre rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter, si vous en avez une, vers ce ciel vertigineusement bleu de notre bonne ville de Lyon, malgré la froidure, et il y a de fortes chances de voir s'approcher la navette spéciale de Miss Cosmos. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette. Eh bien, j'ai bien réussi à météoriter, c'était assez facile aujourd'hui, avec la stratosphère que vous m'avez aménagée pour que je puisse arriver dans les studios de Radio Canette au moyen de la navette spéciale. Bonjour, donc, comme chaque semaine hebdomadaire, eh bien, c'est Miss Cosmos qui, aujourd'hui, eh bien, va vous parler de, et puisqu'on m'a parlé d'hormones, eh bien, de spéculation foncière. Oui, c'est singulier. Des asperges? Mais où allez-vous trouver des asperges au printemps sur votre fragment? Savez-vous ce que deviennent vos terres arables, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette? Elles sont, comment vous dites, accaparées. Ce qui fait que même vos libéraux envisagent une loi pour limiter les ardeurs des accapareurs. On va commencer par ce que vous appelez la souveraineté alimentaire par chez vous. La souveraineté alimentaire se fonde sur le modèle de l'exploitation familiale. Cela signifie qu'on s'oppose aux domaines agricoles expansionnistes, à la monoculture qui ne répond qu'aux fluctuations mondiales des cours des matières premières. Mais est-il correct de dresser des murs contre la loi du marché sur le météorite? Voyez le fragment Brésil. Bon, toutes les terres cultivables, que voulez-vous en faire quand le métier d'agriculteur, d'éleveur d'asperges est si difficile? L'avenir des agriculteurs est d'être salariés. Il n'en reste plus que 45% qui sont propriétaires de leurs champs sur le fragment France. Bon, alors vous misez sur des nouveaux venus, des débutants, tout moulus de thèses écologistes, fort bien. Vous mangerez mieux, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette, et de meilleures asperges. L'agriculture biologique, c'est de la valeur ajoutée qui n'enfreint pas votre sacro-saint principe de la liberté d'entreprendre. Alors, comment rédiger la nouvelle loi contre l'accaparement des terres? L'accaparement des terres, c'est aussi l'urbanisation à outrance, des nouvelles routes et tout et tout. 70 000 hectares de terres cultivables disparaissent chez vous à chaque révolution. À ce que j'ai constaté, au moyen de mon télescope, de ma constellation des pénates depuis la dernière semaine hebdomadaire. Bon, et puis, les exploitations qui restent se bouffent entre elles, puis se font racheter par des investisseurs des quatre coins du météorite. Vignobles, céréales, tout vous échappe. Dans les milieux agricoles, ça magouille sec, depuis qu'on joue aux cartes avec les parts qu'on possède. Vous gardez le minimum pour échapper au contrôle de l'aménagement foncier, parce qu'officiellement, vous n'avez cédé qu'une parcelle de votre bien.
Comment voulez-vous réguler quoi que ce soit ? L'éternel problème du météorite, c'est la spéculation. On vous le dit, on vous le répète, chaque semaine hebdomadaire, elle se cache derrière des transactions compliquées et la liberté d'entreprendre, le droit d'acheter et de vendre à sa guise. Le droit d'acheter et de vendre à sa guise. Ainsi s'épaississent les monopoles sur le météorite, en accord avec vos constitutions. Et c'est singulier. Même les pesticides. Qu'est-ce que vous faites contre, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette ? Ça empeste jusqu'à chez nous, dans la constellation des pénates, hein, et c'est pas tout près. Vous aimez les métamorphoses. On ne vous changera pas. Je vais aller renifler l'atmosphère de ma constellation des pénates. Tant qu'elle est encore à peu près saine, bien que vos pesticides, ben, ça monte, ça prend de l'ampleur. Oh là là, mais peut-être que je me suis inquiété toute seule. Bon, je vais essayer de faire redémarrer ma navette spéciale, et si tout se passe bien, si je n'ai pas explosé en vol, je tâcherai de revenir la prochaine semaine hebdomadaire, vous donner de mes meilleures nouvelles de ce qu'on aura constaté sur le sens pédagogique sur votre météorite. Alors, à la prochaine semaine hebdomadaire.
Tu sais l'ami, c'est pas facile d'expliquer pourquoi on se bat. Ma campagne est loin de la ville, c'est dommage, on ne se connaît pas. Pourtant chacun à notre façon, on se pose les mêmes questions. C'est le même vent qui nous malmène, deux maillons sur la même chaîne. Toi tu t'inquiètes de la pour l'agriculture paysanne. Tu sais, chez toi, c'est comme ici, c'est pas les gens qui font les lois, c'est la finance et l'industrie, sans s'occuper du résultat. Nous, on laissera pas s'envoler pour des bénéfices à court terme, tous nos savoirs accumulés, nos bonheurs de vivre à la ferme. Toi tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On veut rester à la campagne, vive l'agriculture paysanne. Quand il y a surproduction, on nous répète jusqu'au délire, il y a encore trop d'exploitation, qu'à tout prix on doit s'agrandir. Nous on n'est pas des mercenaires, prêts à tout produire pour pas cher. On préfère avoir des voisins que des gros troupeaux, des gros engins. Si tu t'inquiètes de la malbouffe, nous aussi c'est ce qui nous étouffe. On voudrait vivre à la campagne, de l'agriculture paysanne. La société qu'on nous prépare, au nord, au sud et au milieu, c'est du plastique et du cafard, et tout un tas de choses bien dégueu. Alors pense à moi si tu enrages de ce monde en déséquilibre. La bonne bouffe, les beaux paysages.
C'était Jules Marcard, 20 ans à la campagne. Eh bien, normalement, nous avions prévu notre petite rubrique JPG, mais alors, il y a un petit truc, c'est que là, le matériel à Radio Canu, bah, ma voix, il a été changé, et puis il y a une petite clé USB bah, qui ne veut pas être lue. Et ben voilà, et donc, c'est ça, on va dire, ça, on appelle ça un problème technique, donc cette petite rubrique, eh ben, je crois qu'on la reportera pour une autre émission, c'est malheureux ça tout de même, mais voilà, je crois que vraiment, c'est perdu pour aujourd'hui, bon, eh bien... Sur ces bonnes paroles, nous allons donc passer à quoi donc ? Nous allons donc passer à la rubrique Gamma. Le veuf a-t-il tué ? Un homme était soupçonné d'avoir tué sa femme. Mais on n'en était pas sûr. On a trouvé un policier génial pour mener l'enquête. Ce policier génial fit le résumé du dossier en présence du mari de la femme morte, le veuf. Vous êtes habile pour reconstituer les faits, dit le mari. Et c'est mon métier. Cependant, comme vous avez pu le constater, il me manque l'identité de l'assassin. Ah. Oui, mais en tout cas, vous avez misé dans le mille, commissaire. Je trouve que vos déductions touchent presque à l'art occulte. Je vois bien le déroulement des faits. Pouvez-vous compléter sur certains détails que je vous ai exposés ? Vous êtes un génie ! Ce que je rajouterais ne ferait que brouiller les pistes que vous avez ouvertes. Vous m'avez décrit exactement la façon dont le crime a eu lieu. Comment en êtes-vous si sûr ? Où étiez-vous à ce moment-là ?
Je jouais la comédie. Ça me soulage de comprendre, par votre témoignage, comment on a assassiné ma femme.
Mais comment savez-vous que ce que je vous ai décrit est si juste ? J'ai pu me tromper sur les détails.
C'est possible. Je n'ai pas vécu les choses de la même manière. Il y a tant de façons de raconter les histoires. Je n'ai jamais été doué pour raconter les histoires. Même les blagues, je les oublie aussi vite que le rire qu'elles ont suscité en moi.
Vous voulez dire, il y a une différence immense, un abîme, entre le vécu et le reconstitué ?
Non. Votre récit m'a convaincu.
Et alors, vous avez quelque chose à rajouter ?
Non, votre récit m'a convaincu. Mais je ne connais pas cette histoire. Je ne l'ai pas vécue. Vous voyez, quand la reconstitution est parfaite, on est rassuré. Parce qu'on sait qu'on n'est pas le coupable. Le coupable dans cette histoire-là que vous avez racontée.
Racontez-moi donc la rencontre avec votre femme.
Oh, vous savez, on exagère à propos de ces histoires de défloration. C'est avant tout une rencontre entre maladresses.
Vous voulez dire, ce ne fut pas satisfaisant ?
Oh, physiquement, je vous l'accorde. Mais l'esprit et le cœur y étaient.
Qui a pris les devants, si ce n'est pas indiscret ?
Elle, ma femme. Elle avait même fixé l'heure et le lieu. Je n'étais pas très sûr de moi, surtout quand l'hymen fut rompu.
Qu'est-ce qui lui plaisait en vous ?
J'étais un gars commode pour elle, c'est-à-dire que je n'étais pas assuré de ma virilité.
Ce n'est donc pas une histoire de passion.
Oui, je ne suis pas si prétentieux. Je ne valais pas bien cher, et cette proposition m'a redonné confiance en moi. Je l'ai prouvé après notre mariage. Au début, si vous voulez, je lui rendais service. Mais la belle au bois dormant s'est rendormie. J'ai croqué tout seul la pomme.
Vous n'étiez pas le prince charmant qu'elle cherchait.
J'aurais dû rester un épisodique compagnon. Seulement, elle a découvert avec moi le plaisir sexuel dans les premiers temps. Elle s'est fait des idées par la suite. Mais son vagin a perdu la parole. Vous comprenez, ce n'était pas une situation satisfaisante. Dans un premier temps, son regard a changé. Il est devenu ovale et humide. Ses cils se recourbaient étrangement et se mirent à ressembler au poil de son sexe.
Ah. Vous auriez dû être peintre, monsieur. Et puis,
je préfère l'écriture à la peinture, ne vous en déplaise.
Vous me dites que votre femme a déguisé son œil en sexe, tandis que vos rapports sexuels s'espaçaient.
Elle ne m'exposait plus ses poils vulvaires. Elle bichait avec ses yeux, à tel point qu'elle est allée jusqu'à supprimer la virgule des sourcils. Vous voyez le tableau, commissaire.
Elle entretenait sa féminité, je comprends très bien.
Commissaire, un regard humide et velu, tel était mon quotidien. Un piège sexuel, sans aucune consommation nocturne. Ah, par cela, c'était une femme très bien élevée, d'ascendance russe. Un jour, elle a été témoin du décès d'un Pékinois écrasé par un chauffard. Elle a ramassé la bestiole et s'est mise à pleurnicher dans sa fourrure.
Et
rien, on est rentré. Après, elle m'a soutenu que si nous étions sous un régime communiste, ces choses-là n'arriveraient pas.
Je
suis allé vite me coucher ce soir-là.
Le rapport avec le chien ?
Elle l'avait ramené. Je ne sais pas si je dois poursuivre. Vous avez beau être un génie, la suite ne vous avancera guère.
Et donc ?
Le lendemain, au petit déjeuner, il y avait une excellente confiture.
Et ?
Cette confiture avait un goût de chien mort. Je vous le jure, commissaire, c'était de la confiture de chien.
Des origines russes, vous dites ?
Oui, vous verrez, en poussant plus loin votre enquête. Maintenant que j'y repense, ce pouvait être du caviar, ce truc. Mais votre femme qui vous sert du caviar au petit déjeuner ?
Je suis désolé, monsieur Leonetti, mais je vous emmène avec moi pour un entretien plus approfondi.
Oh, je m'habille immédiatement, monsieur le commissaire. Ce n'est pas tous les jours qu'on a affaire à un génie.
Il est 20h, j'attends qu'il meure. Notre bonheur était un leurre. Comme ça coûte cher de divorcer, c'est bien plus simple de le tuer. J'ai mélangé au rôti de porc, de l'aspirine, du médiator. Ça fait des morts propres et nettes, comme je l'ai vu sur internet. Puisqu'il a l'estomac fragile, qu'il est cardiaque et hémophile, c'est le crime parfait tout en douceur. Il est 20h, j'attends qu'il meure. Mais je comprends pas, monsieur l'agent, ce qu'a pu vous raconter Samu. C'est pourtant simple et évident, cœur à lâcher,
j'en sais pas plus.
Je m'impatiente, j'ai peut-être été imprévoyante. Je vois qu'il s'agite et qu'il transpire. Il a pas l'air de vouloir mourir. Je vais lui donner son hydromel, assaisonné à l'antigel. Ça bouffe les reins et ça les nique, comme ils l'ont montré dans Derrick. Faut qu'il y passe, parce qu'il m'agace. Ça fait trop longtemps que ça traînasse et qu'il me prend pour sa servante. 22h30, je m'impatiente. Mais je vous le dis, monsieur le commissaire, comme d'habitude, il avait bu. Quand il a pris son dernier verre, il a dû se tromper, j'en sais pas plus. Il est minuit, c'est pas fini, et ça m'ennuie qu'il l'ait vomi. Il faut que ça cesse, c'est un cauchemar. Je vais le noyer dans la baignoire. Je l'ai fait glisser dans l'eau glacée, mais ça l'a tout revigoré. Le sèche-cheveux posé devant moi m'a fait penser à Claude François. Du 220 dans les gencives, ça m'étonnerait bien qu'il survive. En un éclair, le voilà cuit. Il est minuit et c'est fini. Mais monsieur le juge, je vous l'assure, il bricolait toujours tout nu. Avec une telle désinvolture, je l'avais prévenu, mais j'en sais pas plus. Il est 3h et c'est l'horreur. Le choc a fait repartir son cœur. Là c'est la colère qui l'emporte. Je vais employer la manière forte. Je traîne le bonhomme au salon, une vieille cravate sous le menton. Qu'importe les traces laissées par terre, je sais comment faire grâce aux experts. Je prends tout ce qui me tombe sous la main. Tiens là, il fait bien moins le malin. Sans aucun remords, j'y tape dessus. Voilà l'aurore. Et j'en peux plus. Mais je vous le jure, monsieur le président, quand on voit ce qui traîne dans nos rues, faut pas s'étonner que les braves gens se fassent tuer chez eux. J'en dis pas plus. Patience. Enfin, je vais voir si j'ai de la chance. Je veux savoir ce qu'il y a dans le contrat. J'appelle Cerise de Groupama. Ah, quand je pense au coût de la vie, va me falloir un nouveau mari. Un peu plus riche que les trois derniers et un peu plus facile à tuer. C'est pas de ma faute, monsieur les jurés, les belles promesses. Tant besoin d'être aimé. À chaque fois, je suis déçu.
Juliette, veuve noire. Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus belle des radios. Nous vous rappelons que sur l'émission Les Petits Tas dans le Mou, aujourd'hui, nous sommes la Sainte Asperge et que je cherche depuis déjà trois quarts d'heure à essayer d'activer vos hormones multiples et variées. Et voici donc venir notre ultime rubrique, la rubrique... Yaka. Celle qui cause que... Dans cette période de recyclage, où tout se recycle, et même la politique, eh bien nous allons parler du plastique et du tabac. Vous n'entendez pas beaucoup parler du Zimbabwe, chères auditrices et chers auditeurs. Et pourtant, dans les environs du canton de Harare, ces dernières décennies, la production agroalimentaire a subi une concentration remarquable. Céréales, coton, viande bovine, sucre, laiterie. Les grandes exploitations occupent à l'heure qu'il est, 13h45, 40% des terres de ce pays. On parle de culture de rente. Ce phénomène, observable un peu partout sur la planète, tel que l'avait prévu Marx, n'a pas bénéficié à la population en termes d'emploi. La misère de ces contrées s'est à peine réduite sous le coup de la politique de réinstallation. La dépendance vis-à-vis des cartels n'a fait que s'accroître. Les travailleurs inactifs sombrent dans le marasme, tandis que leurs revenus fondent. Alors, je me suis pointé là-bas, moi, per Nicolas Sporgersi, et j'ai dit: nous allons procéder d'une manière expérimentale pour mettre fin à cet état de choses de manière chirurgicale. Ce qu'il fallait, c'était développer la veine collaborative en encourageant les initiatives locales, voire familiales. Premier constat, le lait stérilisé, distribué en abondance, se présente au Zimbabwe sous emballage plastique. Que devenait ce plastique? Il était perdu, incinéré, évaporé, improductif. Les sachets s'accumulaient à une vitesse vertigineuse car la majorité des habitants ne possèdent pas de matériel réfrigérant. Les gens sont contraints de se fournir au fur et à mesure des besoins. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis concentré dans un premier temps sur le statut des femmes qu'on cantonne là-bas à la couture. Qu'était-il possible d'imaginer avec ce stock de plastique inemployé? Après une série d'essais infructueux, il est né de ce bouillonnement un produit d'usage promis un bel avenir. Un solide tablier à double couture, facilement lavable. Ce fut un redoublement d'enthousiasme et un bon point pour l'idée de recyclage. Le tablier fut suivi par la couche culotte, le rideau de douche, la casquette légère. Bref, les insignes de la laiterie apparaissaient sur tant d'accessoires qu'il nous a fallu résister à l'industrie, voyant le profit qu'elle pouvait tirer de cette inventivité si elle l'intégrait dans une succursale produit manufacturé. Aujourd'hui encore, malgré ces propositions d'achat des droits, les habitants s'organisent, préservant l'indépendance de leur production grâce à mon soutien actif et celui, je dois le reconnaître, des collectivités publiques. Nous envisageons de passer à l'exportation, poussée par le succès de l'entreprise. Nous comptons sur vos commandes, chères auditrices et chers auditeurs. Un tablier, une couche culotte, une casquette. N'hésitez pas, c'est 04 78 39 18 15. Alors, du Zimbabwe, je me suis transporté en Mozambique. Je m'étais laissé dire que l'avenir du tabac passait par cette région. Mais pourquoi? Je me grattais la tête. Personne n'avait précisé de quoi il était question. Les débitants de tabac sont harcelés de partout, de nos jours. Même la Française des Jeux s'en détourne. Il est pourtant de notoriété publique que l'économie de nombreux pays, et pas des moindres, en dépend pour une large part. Chine, Inde, Turquie, Brésil. Le tabac a-t-il d'autres vertus que de procurer du plaisir à ceux qui le fument ou le prisent? Assurément, oui. Il a fallu que je m'aventure au fin fond de la Mozambique pour observer une curieuse pratique de ses habitants. On voyait bien dans les boutiques, les épiceries itinérantes, ces petites boîtes en fer blanc de râpé, en quantité considérable, qui par conséquent devaient s'écouler sans problème. En analysant le contenu, j'ai détecté du tabac pur, séché, réduit en miettes et grillé. Un produit sans mélange. Quel pouvait être son usage? La question a fait rire les gens auxquels je me suis adressé, d'un rire qui découvrait une dentition à faire pâlir un publicitaire. Il faut vous imaginer un visiteur qui s'emparerait de votre tube dentifrice en vous bombardant d'interrogations. Vous ririez aussi. Car au Mozambique, La brosse à dents est un simple bâton végétal, pas plus long qu'une asperge, qui débloque les impuretés par frottement. Mais il est une vertu du tabac grillé, ignoré par chez nous. Il blanchit l'émail. Il suffit de plonger l'asperge, qui s'appelle le moulala, dans la boîte de poudre et le tour est joué. Vous voilà doté d'un sourire à incendier les plages. Outre cette efficacité, après laquelle chacun court, passé un certain âge, ma création ne souffre aucune adjonction, tout comme le café en grains. Voici ma réflexion finale, et vous ne pourrez qu'être d'accord avec moi. De quel manque d'esprit prospectif ont fait preuve nos responsables en dilapidant la Seïta sous la pression des lobbies. Tant pis, comme d'habitude, ils ont habillé Paul, le libéral, en déshabillant Pierre, l'entreprise publique privée d'avenir. Et si j'ai le grain, l'avenir.
Au fond de ma bouteille, un petit diable veille, pas plus gros qu'une abeille, plus noir qu'une corneille, et sa voix qui zézeille, susurre à mon oreille, les plus sales conseils.
Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait le même la nuit, comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues.
fumeur de Havane, bien évidemment une chanson de Serge Gainsbourg. Ceci c'est donc pour conclure notre émission Les Petits Tas dans le Mou, aujourd'hui consacrée à l'asperge, patronne des aphrodisiaques. J'espère que j'ai réussi à activer un peu vos hormones pour jusqu'à ce soir minuit, car c'est le jour, c'est le jour. La fête à l'asperge, c'est la fête des hormones, c'est la fête des aphrodisiaques s'il y a besoin. Et je crois que d'ailleurs, pour conclure cette émission, puisqu'il me reste encore quelques minutes imparties, je vais vous en remettre une couche à propos des aphrodisiaques. Disons que parfois il y en a peut-être besoin, mais c'est minoritaire, comme vous allez le comprendre par cette chanson que vous connaissez sans doute de Georges Brassens.
Une manie de vieux garçon, moi j'ai pris l'habitude d'agrémenter ma solitude aux accents de cette chanson. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. C'est cette mâle ritournelle, cette antienne virile qui retentit dans la guérite de la vaillante sentinelle. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Afin de tromper son cafard, de voir la vie moins terne, tout en veillant sur sa lanterne, chante ainsi le gardien de phare. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Après la prière du soir, comme il est un peu triste, chante ainsi le séminariste à genoux sur son reposoir. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. À l'étoile où j'étais venu pour ranimer la flamme, j'entendis ému jusqu'aux larmes la voix du soldat inconnu. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Et je vais mettre un point final à ce chant salutaire en suggérant aux solitaires d'en faire un hymne national. Quand je pense à Fernande, je bande, quand je pense à Félicie, je bande aussi. Quand je pense à Léonore, mon Dieu, je bande encore. Mais quand je pense à Lulu, là je ne bande plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas.
Et voilà, Georges Brassens, qui n'était pas le dernier à aller aux asperges. Alors, on n'a pas eu l'extrait, malheureusement, de Proust dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». On vous le passera certainement ultérieurement à une autre occasion. Mais grâce à Proust, nous avons l'expression qui est devenue courante dans certaines contrées de notre brave pays, qui est qu'on dit, on ne dit pas qu'on peluche l'asperge et tout, on plume l'asperge, ce qui est très joli. Ça se trouve dans Proust, et puis ça a été adopté. Vous voyez que des fois on dit que Proust, ce n'est pas populaire, mais en fin de compte, malgré tout, certaines de ces expressions sont rentrées dans le langage courant et même le langage compagnard. Eh bien, quand je pense à Fernande, moi je ne la connais pas, donc ça ne me fait rien. Mais vous, je vous conseille jusqu'à ce soir, d'activer vos hormones. C'est le jour, c'est la Sainte Asperge, patronne des aphrodisiaques. On va vous laisser avec la bande passante, dite bande continue de Radio Canu, qui est concoctée par un certain nombre des animateurs éclectiques de cette radio, néanmoins belle. Et ce, jusqu'à 17h, vous retrouverez l'émission Intrinsèque, les musicalités gaulo-gauloises. Par-dessus tête. À 18h, c'est l'émission Grain de sable, l'émission d'attaque, où sera posée la question de est-il possible de résoudre le chômage en réduisant le temps de travail, oui ou non ? Nom de Dieu ! Alors, ce sera peut-être un peu moins hormonal que le sujet des asperges, mais qui sait. Voilà, donc ça c'est de 18h à 19h, et à 19h, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Quant à nous, si tout se passe bien, on se retrouvera la prochaine semaine hebdomadaire, justement, le 26 janvier, où nous serons, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, la Saint-Prophie. Rassurez-vous, ça ne va pas être un truc pour débander, puisque c'est un peu la fête de Barthélemy Profi, qui a réellement existé, et qui est le patron de la méthode active autour de 1900. La méthode active dans l'éducation, bien entendu. Et donc, jusque-là, allez, hormonez.